Récemment, deux associations, Regard Citoyen et Transparency International France, se sont penchées sur la question du lobbying à l'Assemblée nationale. Les lobbies ou groupes de pression ont pour rôle d'influencer l'élaboration des textes de loi avant leur présentation aux députés. Des données existent concernant les personnes auditionnées par les députés lors de ces travaux préparatoires. Les deux associations se sont emparées de ces documents en ligne pour rendre leurs conclusions. Cette étude est disponible sur leur site internet. Gabriel Kernis est bénévole chez Regard Citoyen et nous explique l'objectif de leur démarche.
Lobby, c'est un mot qui fait un petit peu peur. Et le but, c'était de savoir qui est-ce que les parlementaires rencontraient quand ils travaillent à l'élaboration d'une loi, auprès de qui ils prennent des conseils, qui sont les personnes qui les interrogent, et puis essayer de faire un état des lieux pour essayer un petit peu de démystifier tout ça et de voir en pratique, sans a priori, comment ça se passe.
Le travail de tri qu'ils ont effectué sur les données brutes a déjà permis de dégager deux grandes observations. Très peu de documents mentionnent les personnes auditionnées d'une part, et sur ceux qui portent cette mention, 48% des personnes consultées représentent le secteur public. Gabriel Kernis nous détaille ces deux points.
La première chose qu'on a constatée, c'est que sur l'ensemble des rapports parlementaires qu'on a analysés, il n'y en a même pas 40% qui contenaient une liste de personnes auditionnées. C'est-à-dire donc qu'il y a plus de 60% des rapports qui ne contiennent pas de liste des personnes que les parlementaires ont vues. Alors ça peut être soit des rapports où ils n'ont vu personne, soit des rapports où simplement ils ont oublié. On ne pense pas forcément qu'ils aient voulu cacher quoi que ce soit. Mais ça déjà, ça a été la première surprise pour nous, c'est qu'on n'a pas toute l'information sur les personnes que les parlementaires rencontrent. Et le deuxième enseignement essentiel qu'on en a retiré, c'est que les personnes les plus interrogées à l'Assemblée nationale, en fait, ce sont des personnes qui viennent du service public. Ce ne sont pas des représentants des entreprises ou des lobbyistes professionnels ou des personnes du secteur privé. Il y a 48% des personnes interrogées, du moins dans le recensement qu'on a fait, qui sont des personnes d'organismes publics ou parapublics.
Les lobbies déclarés ou non sont pourtant présents en masse dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi Regard Citoyen et Transparency ont-ils choisi de ne s'attacher qu'aux auditions parlementaires ? Explication.
Tout d'abord parce que c'est des données qui sont publiques. C'est des rapports qui sont publiés par l'Assemblée nationale et donc ce sont des informations fiables et officielles qu'on pouvait récupérer. C'est à cet endroit-là que se fait le travail en amont sur les lois. C'est là qu'un certain nombre de choses se jouent, mais on est bien conscient que c'est uniquement quelque chose de partiel. C'est-à-dire que il y a aussi toute une partie du jeu d'influence et de lobbying au sens plus traditionnel qui se fait dans des rencontres informelles qui sont en dehors des auditions parlementaires. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas la possibilité de quantifier parce que c'est pas une information qu'on a. Ce serait sans doute plus un travail de journaliste.
3000 internautes se sont joints aux bénévoles des associations pour éplucher et synthétiser les données. Voici comment ces personnes ont été mises à contribution dans cette démarche.
Dans ce qu'on a fait, c'est d'abord, on est parti d'un peu plus d'un millier de rapports qu'on a commencé par analyser automatiquement, donc là sans l'aide des bénévoles, pour en extraire automatiquement à l'aide de programmes informatiques des noms, des prénoms et puis des fonctions. Donc on a trouvé les lignes dans les rapports qui semblaient parler de personnes auditionnées. Et puis après cette phase automatique, elle ne nous permettait pas de rentrer dans le détail parce que à un moment il faut quand même un œil humain pour être capable de comprendre ce qui est écrit et de catégoriser. Et c'est là qu'on a mis en place un site internet sur lequel les gens bénévolement, par le biais du bouche à oreille, pouvaient venir nous aider. On avait un peu plus de 15 000 personnes auditionnées, donc de personnes identifiées dans les rapports pour lesquelles il fallait retranscrire le nom, le prénom et puis la fonction, l'entreprise pour laquelle elles travaillaient ou l'organisme. Et effectivement, juste par le bouche à oreille, on a 3000 internautes qui, sur une dizaine de jours, nous ont permis de classifier ces 15 000 personnes auditionnées. Donc on a été très très surpris d'une part de l'engouement que ça a suscité et du fait que ça se soit passé si vite, on s'attendait à mettre au moins un ou deux mois avant de terminer le travail.
Lorsqu'on se rend sur le site internet de Regard Citoyen pour voir le rapport sur ces lobbies de l'Assemblée nationale, La profusion de graphiques et autres pourcentages peuvent quelque peu dérouter. La lisibilité de ce rapport reste améliorée, notamment en apportant des analyses écrites. C'est un constat que partage Gabriel Kernis, le bénévole de l'association. Il déplore toutefois un manque de lisibilité des documents à la base même, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale.
D'une part, en ce qui concerne l'analyse, il y a quand même un rapport qui a été écrit justement par Transparency International, donc l'organisation, l'autre organisme avec laquelle on a réalisé l'étude, pour analyser ces données et essayer d'en retirer des grandes lignes. Donc c'est un rapport qui fait, je crois, une vingtaine de pages. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est difficile parce que ça fait une très très grande masse de données qu'on a essayé de présenter sous forme de statistiques avec des pourcentages. Mais ce n'est qu'un reflet de l'activité de lobbying. Ça a permis de confirmer de manière objective ce que, de l'intérieur, certains assistants parlementaires à l'Assemblée nationale nous disaient. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé cette étude, on est allé voir aussi de manière informelle des gens qui travaillaient à l'Assemblée nationale et qui nous ont dit bah, « vous verrez ce que vous allez trouver ». En fait, c'est qu'on entend essentiellement des gens qui viennent du public. Les lobbyistes privés, c'est pas forcément ce qui ressort dans les documents officiels. Et donc, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier, effectivement. Pour aller plus loin dans cette analyse, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'une part que l'Assemblée nationale... au niveau de son bureau, mettre en place un recensement effectif des lobbyistes et des personnes qui sont auditionnées. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un cahier qui existe où ils inscrivent les lobbyistes, mais il n'y en a que 120 qui sont inscrits. C'est ceux qui viennent très régulièrement à l'Assemblée nationale. Et ça, nous, on trouve que c'est un problème. On demanderait à ce que toutes les personnes qui sont auditionnées soient inscrites dedans. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir poursuivre ce travail au-delà des rapports parlementaires.
Le service public représente donc la plus forte part du lobbying à l'Assemblée nationale. Il y a lieu de s'interroger sur l'utilité d'un lobbying public sur une institution publique. Et pourtant...
C'est quelque chose de finalement assez naturel quand on y pense, parce que beaucoup de lois qui sont réalisées par les députés touchent à des modifications de l'État et des organismes publics. Et donc ça paraît totalement naturel que quand on fait une réforme de l'éducation ou une réforme de la santé, les personnes qu'on entend soient les directeurs d'hôpitaux, soit les directeurs d'universités ou de centres de recherche, par exemple. Il y a quand même les organisations représentatives, hein, aussi les syndicats de salariés ou patronaux, et puis à 16% le secteur privé qui sont entendus. Donc il ne faut pas penser qu'on n'entend pas du tout le privé ou les syndicats. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y a une grosse partie du travail parlementaire qui touche à la réforme et la modification du secteur public, eh ben, en pourcentage, on retrouve mécaniquement ces personnes qui sont entendues, souvent sur leur travail et sur leur expérience. C'est simplement quand les députés veulent modifier la manière dont on va fonctionner telle administration, eh ben, ils vont demander aux fonctionnaires et aux fonctionnaires qui y travaillent comment ça se passe pour avoir plus d'informations et faire un travail informé.
Ce genre d'informatisation et de mise à disposition sur Internet de données publiques n'est pas sans rappeler la tendance initiée par Wikileaks ou encore Mediapart. Mais une mode commence à prendre du terrain en France également sur ce domaine. Il s'agit de l'open data, l'ouverture des données publiques. Alors regard citoyen, plutôt Wikileaks ou open data?
C'est beaucoup plus du côté de ce qu'on appelle l'open data. C'est-à-dire que l'open data, c'est une idée selon laquelle il faudrait que les données qui sont publiques, c'est-à-dire qui sont produites par des organismes publics, il faudrait qu'elles soient disponibles pour tous et gratuitement. Donc c'est quelque chose qui est possible et qui est le cas dans le cadre de l'Assemblée nationale. Par exemple, pour obtenir ces rapports parlementaires, ils sont diffusés officiellement et on n'a pas eu à payer pour y accéder. Mais il y a d'autres actions qu'on mène à regard citoyen sur le mouvement Open Data. Par exemple, pour les données des résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote, ça c'est des données qu'on peut aussi obtenir gratuitement, mais c'est plus difficile, il faut aller au ministère de l'Intérieur pour les demander. Et puis il y a d'autres données qui sont produites parfois par les municipalités ou par les départements, qui sont produites par des organismes publics, mais qui pourtant ne sont pas disponibles, et donc sur lesquelles on ne peut pas faire d'analyse. Et donc nous, c'est ce qu'on recherche d'une manière plus générale, c'est obtenir un accès à ces données. Alors certaines sont intéressantes, certaines d'autres peut-être moins. Au regard de notre étude, on peut se dire qu'on n'a pas d'annonce fracassante à l'arrivée à faire sur les lobbies, Mais malgré tout, si ces données ne sont pas disponibles, ben, on ne peut même pas mener l'étude et on ne peut pas savoir s'il y a quelque chose d'intéressant à en retirer.
Qui dit open data dit donc libre accès aux données publiques, mais aussi libre exploitation. Voici deux exemples intéressants de réappropriation relatés par le bénévole de Regards Citoyens.
Alors, sur le travail qui a été effectué sur les lobbyistes, ils ont été repris de manière privée par un certain nombre de cabinets d'études qui font aussi leur propre classement pour les analyser, mais pas d'études publiques, il n'y a pas de recherche qui a été faite à partir de ça. Par contre, il y a quelque chose qu'on avait fait au moment du redécoupage électoral, qui était de mesurer l'impact du redécoupage électoral sur les résultats des élections, donc quand les circonscriptions ont été redécoupées il y a quelques années pour voir si cela donnait plutôt un avantage à la droite ou à la gauche. Et donc cette étude qui avait été un gros travail de recensement auprès du ministère et des mairies, ça a donné lieu, les députés paradoxalement se le sont réappropriés. Puisqu'on avait fait ce travail en même temps que le projet de loi était étudié. Et donc un certain nombre de députés ont utilisé ces résultats pour pointer soit des avantages, soit des inconvénients dans certaines circonscriptions. On avait quand même trouvé à l'issue de cette étude que globalement le redécoupage était assez équitable et qu'il ne donnait pas un avantage significatif ni à la droite ni à la gauche.
Regards Citoyens poursuit son action en faveur de l'open data dans les données institutionnelles en général et plus particulièrement du côté du Parlement.
Alors nous, on travaille d'une part avec un certain nombre d'organisations internationales pour essayer de pousser le mouvement open data. Et donc en quelque sorte, on a notre propre action de lobbying à notre modeste niveau, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a une mission au niveau de l'État qui s'appelle Etalab, qui essaye de réfléchir à mettre plus de données publiques en open data, justement. Donc on discute avec eux et puis on discute avec des correspondants en Angleterre et aux États-Unis notamment, où le mouvement est beaucoup plus développé, pour avoir des conseils de leur part et essayer de faire avancer les choses dans ce domaine. Et puis par ailleurs, on continue... notre première opération, en quelque sorte, ça a été le site nosdéputés.fr, qui recense l'activité parlementaire des députés et qui donne des statistiques et qui essaye de rendre plus lisible ce que fait chaque député. Et donc on continue toujours le travail à ce sujet et on envisage d'ouvrir un nouveau site qui serait nosénateurs.fr d'ici quelques mois pour mener en parallèle le même travail d'analyse sur le Sénat.
Merci Gabriel Kernis, bénévole de l'association Regards Citoyens. N'hésitez pas à visiter leur site internet Regards Citoyens donc, pour avoir plus de détails sur leurs actions et éventuellement rejoindre leur rang.